12h30, 13h.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour à tous, bonjour Marlène.
Bonjour Fabienne.
Ravie de vous retrouver pour le journal de la mi-journée. À la une, Alain Finkielkraut violemment insulté en pleine rue hier à Paris, en marge d'une manifestation des Gilets jaunes. J'ai été pris à partie de manière très violente par des manifestants dont certains voulaient me casser la gueule. Voilà ce que dit l'académicien qui n'a pourtant pas porté plainte, mais le parquet de Paris a ouvert une enquête pour injure publique. Autre image marquante hier, une camionnette de CRS caillassée à Lyon par des Gilets jaunes. Nouvelle mobilisation aujourd'hui justement des Gilets jaunes pour marquer les 3 mois du lancement de leur mouvement. Nous verrons comment ils réagissent à ces nouvelles violences. Opération déminage en cours pour faire exploser une bombe de la Seconde Guerre mondiale au nord de Paris. Nous serons sur place. Le film « Grâce à Dieu » de François Ozon primé à Berlin hier soir. Comment l'intelligence artificielle va révolutionner notre quotidien? Question posée à mon invité Bertrand Braunschweig, directeur du centre de recherche de l'INRIA, alors qu'un grand colloque se tient à Paris mardi. Le journal des sports avec Saint-Étienne PSG ce soir en Ligue 1 et la météo, la douceur toujours au rendez-vous.
Europe 1.
La scène a choqué. Alain Finkielkraut violemment pris à partie hier après-midi en marge d'une manifestation des Gilets jaunes. Insulte antisémite proférée en pleine rue à l'adresse de l'académicien. Le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête pour injure publique en raison de la race et de la religion, même si Alain Finkielkraut avait décidé, lui, de ne pas porter plainte. Alain Finkielkraut qui a raconté ce matin comment il a vécu la violence de ces attaques.
Ils avaient vraiment envie d'en découdre parce que si des policiers ne s'étaient pas interposés, je pense que certains d'entre eux voulaient me casser la gueule. C'était une violence, malgré tout, pogromiste. Mais il faut le dire, je ne suis ni une victime, ni un héros. Hein, c'est pas héroïque de regarder des gens en gardant son calme, et j'ai pas été non plus la victime d'une agression physique. Dans ce genre de manifestation, on me traite de sale raciste. Mais c'est terrible, parce que quand vous êtes traité de juif, vous pouvez redresser la tête, et puis l'injure, vous pouvez la porter comme une couronne. Mais raciste, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous êtes tout d'un coup coupable du pire des crimes.
Alain Finkielkraut, ce matin chez nos confrères de LCI, nouvelle mobilisation aujourd'hui des Gilets jaunes à Paris, mobilisation exceptionnelle pour un dimanche, mais c'est pour marquer le coup des 3 mois du mouvement qui a débuté le 17 novembre dernier. Plusieurs rassemblements prévus dans la capitale aujourd'hui, le premier depuis 11h ce matin sur les Champs-Élysées. Rémi Botsaron, vous êtes sur place, on vient d'évoquer à l'instant la violente agression dont a été victime Alain Finkielkraut. Qu'est-ce qu'en disent les manifestants que vous avez rencontrés ?
Eh bien, la réaction qui domine ici, c'est qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre ceux qui s'en sont pris, Alain Finkielkraut, et le mouvement des Gilets jaunes en général. C'est le sentiment, par exemple, d'Éric.
C'est une personne, quoi, qui a insulté. C'est pas mille. Il y a des comportements. Qu'est-ce que je vous dise ? C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est rien. Moi, je suis là pour manifester. Je suis pas là pour faire le tri dans les rangs, quoi. C'est pas mon boulot. Et après, il faut pas oublier, hein. Les gens, ils en ont marre. Ils sont énervés aussi, hein. Au bout d'un moment, les gens, le cerveau, il en a marre. Moi, je comprends. Je peux comprendre certains dérapages.
Ce qui apparaît aussi, c'est le sentiment que cette vidéo est utilisée pour nuire au mouvement, alors que justement les Gilets jaunes réunis ici veulent montrer qu'ils sont toujours déterminés. 3 mois après, tous font le même constat aujourd'hui, malgré le lancement du grand débat, malgré les mesures sur le pouvoir d'achat, ils n'ont rien obtenu de ce que eux souhaitaient. Mohamed, retraité, résume ce sentiment général.
Rien du tout, hein. Rien du tout, il ne nous donne rien. Si on a obtenu quelque chose, il a donné 100 euros et il se fout de notre gueule. Et c'est tout, on n'a rien. Arrêter la manifestation? Non, jamais de la vie. Jusqu'à la mort. Pour moi et pour ma famille, pour mes amis. Jusqu'à la mort, on ne lâche pas. Tant que Macron, il est là.
La démission d'Emmanuel Macron, toujours réclamée par certains Gilets jaunes parmi les centaines réunies ici dans une ambiance un peu étrange avec les touristes qui les prennent en photo devant l'Arc de Triomphe au soleil alors qu'eux parlent d'un vent de révolte qui soufflerait toujours sur la France.
Rémi Botsaron sur les Champs-Élysées à Paris alors que plusieurs rassemblements sont prévus encore cet après-midi dans la capitale, notamment place de la République. L'autre image marquante hier de l'acte 14 des Gilets jaunes, c'est cette camionnette de CRS caillassée par des manifestants à Lyon. La scène se passe sur l'autoroute qui traverse la ville et Pierre de Cossette, dans la vidéo filmée à l'intérieur du véhicule, on voit et on entend clairement l'effroi de l'équipage.
Oui, tout particulièrement celui de la jeune policière au volant, une adjointe de sécurité. Elle débute dans la profession.
Heureusement,
et voici pendant 1 minute 30 ce qu'elle entend. Des projectiles qui s'abattent par dizaines sur la camionnette coincée dans les bouchons. Les agresseurs surgissent de l'autre côté du parapet. On les voit côté passager. Le chef de bord donne l'alerte sur les ondes et active le deux-ton, la sirène, pour se frayer un passage. Un homme masqué se dresse sur leur chemin avant de s'écarter, avant qu'un autre ne saute sur le capot. Au volant, la policière a du mal à cacher sa panique. Et son chef, plus expérimenté, la guide. La camionnette voit alors arriver les renforts à pied. Sur Internet, le syndicat Alternative Police a diffusé la vidéo et la photo de la fourgonnette après coup. Pour son secrétaire général, Denis Jacob, au-delà du sang-froid de l'équipage, c'est par chance le matériel qui a permis d'éviter un drame.
Heureusement qu'on a réussi à avoir des pare-brises feuilletés, qui a évité que les pare-brises ne volent en éclats et qu'ils aient résisté à l'impact et au choc des projectiles, parce que franchement, c'est affolant. On a de la chance qu'on n'ait pas eu un blessé parmi nos deux collègues.
Un responsable syndical qui insiste sur le fait que cet équipage devait précisément aller bloquer l'autoroute pour éviter tout incident, pour protéger donc les gilets jaunes qui avaient prévu de descendre sur les voies.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. Il est tête de liste pour les Républicains, pour les Européennes, et il se sent bien seul, visiblement. François-Xavier Bellamy était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos ce matin. Il s'est dit attristé par ceux qui, dans son propre camp, le critiquent. On pense notamment à Jean-François Copé, qui se demande même s'il votera pour lui. On écoute François-Xavier Bellamy.
Tout cela m'attriste un peu. Je veux dire par là que le fait de me désigner comme tête de liste est évidemment un pari, et j'espère bien sûr pouvoir être à la hauteur de ce pari au cours des semaines qui viennent. Certains d'entre eux ne me connaissent pas encore vraiment, Hélène Jean le rappelait, je suis un peu nouveau dans le paysage politique. Ce que je regrette en revanche, c'est que tout ceci soit l'occasion d'une succession de petites phrases qui, à travers le prisme médiatique, viennent donner le sentiment d'une forme de désunion qui finalement épuise les Français, qui est très éloignée de leurs préoccupations réelles, et qui donne encore une fois de notre famille politique l'image d'une famille qui ne sait pas se rassembler pour pouvoir s'engager de façon très forte sur un enjeu aussi important que ces élections européennes.
François-Xavier Bellamy sur Europe 1 ce matin. À suivre, c'est du jamais vu à Paris. Plus de 1600 personnes évacuées dans le nord de la capitale, dans le quartier de la Chapelle, à cause de la découverte sur un chantier d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Opération déminage toujours en cours, nous serons sur place.
Il est 12h38, la suite du journal Fabienne Lemoyle.
Et près de 2000 personnes dans le nord de Paris à Saint-Denis privées de grasse matinée ce matin. Elles ont été obligées d'évacuer très tôt leur logement à cause d'une vaste opération de déminage. Une bombe de la Seconde Guerre mondiale retrouvée dans un chantier dans le quartier de la Chapelle. Une bombe qu'il faut impérativement faire exploser. Romain Oquet, vous êtes sur place et le périmètre de sécurité a déjà été resserré, ce qui a permis à certains de ses habitants de rentrer chez eux.
Oui Fabienne, les riverains parisiens ont pu regagner leur logement en fin de matinée. Ils avaient été évacués dès 6h ce matin pour l'opération la plus délicate. Transférer l'obus de 200 kg du chantier où il a été retrouvé jusqu'au terrain vague où il doit être détruit. C'est désormais chose faite, une heure pour parcourir 200 mètres. L'obus se trouve à présent 7 mètres sous le sol où les démineurs sont en train de l'ensevelir. L'explosion est prévue à 13h. Sergio faisait partie des habitants évacués et il reste inquiet pour la suite de l'opération.
On trouve pas que c'est très profond pour faire exploser une bombe. Comme si au sous-sol, il va y avoir des tremblements de terre. Ma crainte, c'est vraiment ça, c'est que voilà, les immeubles puissent bouger et avoir une fissure, quelque chose au niveau de l'immeuble. Même au niveau métro, ça peut arriver, quoi. Si ça arrive, ça arrive, mais c'est ce qui me fait un petit peu peur.
Alors l'obus reste tout de même à 200 mètres des premiers logements. Des tranchées ont aussi été construites tout autour de la bombe pour casser l'onde de choc lors de la détonation. À ce moment-là, un bruit sourd, quelques fumées et des vibrations qui pourront être ressenties dans tout le quartier.
Romain Oquet dans le nord de Paris pour Europe 1. Bien évidemment, cela a entraîné depuis ce matin des perturbations dans les transports dans le secteur avec la suspension jusqu'en début d'après-midi du trafic sur une partie du RER B au nord de Paris. Plusieurs lignes aussi touchées au départ de la gare du Nord. C'est demain que l'on saura si le film de François Ozon, Grâce à Dieu, sortira bien en salle mercredi. Le film raconte comment les victimes d'un prêtre ont enfin osé porter plainte. Scénario directement inspiré de faits réels, l'affaire du père Prénat, mis en examen pour agression sexuelle. Ce prêtre lyonnais a saisi la justice pour que le film ne sorte pas avant son procès, réponse donc demain, alors que Grâce à Dieu a été primé hier soir au Festival du film de Berlin, l'occasion pour François Ozon de saluer le courage des victimes.
Je suis honoré de recevoir cette récompense ici à Berlin pour ce film à propos d'un sujet qui est cher à mon cœur, la protection des enfants. Et pour un film qui essaie de briser le silence sur les abus sexuels au sein d'institutions puissantes. Je ne sais pas si le cinéma peut changer le monde, mais je suis sûr qu'il nous aide à mieux le comprendre. Je veux partager cette récompense avec les trois hommes qui m'ont inspiré. Des hommes qui ont été victimes d'un prêtre pédophile.
Alexandre, François et Pierre-Emmanuel, you are my heroes.
Vous êtes mes héros. Normalement, je devrais remercier l'équipe du film, le jury ou le directeur du festival pour cette récompense. Mais désolé, dans ce cas spécifique, je veux remercier Dieu.
François Ozon, hier soir au Festival du film de Berlin. Valérie Darmon nous le confirmera dans quelques instants. On va encore dépasser largement les 20 degrés dans le sud-ouest cet après-midi. Grand beau temps aussi sur les côtes normandes. Certains se sont même offert un bain de mer. Yasmina Katou.
Un ciel bleu, du soleil et une eau à 9 degrés. Pas de quoi refroidir Thibaut et ses amis. Baignade improvisée, en caleçon, les trois copains plongent la tête la première. Un bain vivifiant.
Alors c'était comment ?
Ah, c'était très très froid.
Mais ça fait du bien ?
Oui, oui. Au début, en fait, on devait juste aller sur la plage, mais après, on a dit on allait se baigner. Il faisait chaud.
Après 5 minutes passées dans l'eau, les garçons se réchauffent sous leurs serviettes. À marée basse, le sable doré s'étend à perte de vue. Ilan en profite. Avec son seau, il laisse libre cours à son âme d'artiste.
Qu'est-ce que tu essayes de faire, là ?
Bah, je tombe, mais j'ai cassé !
On va dire qu'il y a une blessure de guerre.
Je décore le château avec des coquillages, des couteaux de décorer et... un stylo cassé.
Un peu plus haut, au bord de la célèbre promenade des planches, Bernard et Viviane, équipés de leur propre transat, le couple profite comme un parfum d'été en plein mois de février.
On profite du plein soleil et l'air est pur.
C'est le bonheur.
Avant d'aller dépenser quelques sous au casino.
Viviane promet d'être raisonnable. Au bord de l'eau, les enfants le sont moins. Deauville, Yasmina Katou, Europe 1.
Et malgré les 9 degrés, on y plongerait bien, effectivement.
Le journal des sports.
Avec Simon Rubin, allez du ski pour commencer. On va avoir un petit peu froid. Dernière journée des championnats du monde aujourd'hui avec le slalom masculin.
Oui, la première manche qui avait lieu en fin de matinée, dominée de manière phénoménale par l'Autrichien Marcel Hirscher. Lui qui était malade au début de ses mondiaux a retrouvé de la force. Manifestement, il relègue la plupart de ses concurrents à plus d'une seconde. Sauf erreur majeure, le titre semble acquis. Un seul homme peut peut-être le gêner, c'est le Français Alexis Pinturo qui est deuxième à 56 centièmes.
Une bonne première manche, donc ça c'est bien. C'est toujours important après la première manche au moins toujours être entre guillemets dans la bagarre et de ne pas hypothéquer ses chances pour la suite. Donc c'était l'essentiel. C'était long, fatigant. Ils n'ont pas épargné pour cette dernière journée des championnats du monde. Mais voilà, maintenant, je suis dans le coup. Donc on va essayer de se reposer, se restaurer et d'être attaque pour la deuxième. Il faudra essayer d'être attentif là où il faudra. Et puis bien sûr, prendre des risques partout là où on pourra en prendre aussi. Hein. Donc je pense que l'essentiel et la clé, ce sera attaquer, s'amuser. Voilà.
Propos recueilli par Romain Libardi. La deuxième manche, c'est à 14h30. Clément Noël, autre Français, qui est 18e à plus de 2 secondes.
On passe au football avec une bonne opération pour l'OM.
Oui, Marseille qui, pour la première fois cette saison, a enchaîné 3 victoires de suite en gagnant à domicile contre Amiens hier. Les Marseillais désormais 4e du classement dans la foulée de Lyon et Lille. Lille qui reçoit d'ailleurs cet après-midi Montpellier. Pour l'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, l'enjeu est de taille.
Si nous avions le bonheur de l'emporter, oui, ça mettrait vraiment beaucoup de points d'écart entre les deux équipes. Et à 13 journées de la fin, on éliminerait sûrement un concurrent. Ouais, il n'en reste pas moins que Montpellier. C'est quand même la meilleure défense du championnat. C'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer. Je crois qu'elle a pris que 19 buts. C'est la deuxième meilleure défense du championnat.
Et puis l'affiche ce soir en Ligue 1, c'est bien sûr Saint-Etienne-PSG, 21h. Les Stéphanois, 5e, qui ne partent pas évidemment favoris contre des Parisiens qui vont devoir gérer le retour sur terre, un post-Ligue des Champions. Et pour Thomas Tuchel, l'entraîneur, méfiance, les Verts savent briller contre les grandes équipes.
Oui, ils sont très forts contre les grandes équipes, très forts contre les 5 premiers. Et pour ça, une équipe avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de qualité, avec une atmosphère très forte et très émotionnelle. Et pour ça, c'est un grand défi et c'est très difficile.
Thomas Tuchel au micro de Julien Froment.
Le rugby, ça vous tient à cœur, je le sais. Le 15 de France a repris sa préparation hier et pendant ce temps, le championnat continue.
Et oui, le top 14, hein, sans les internationaux français. Du coup, un choc cet après-midi hein, qui est annoncé entre le Racing 7e et Toulouse, qui est leader. Les deux clubs qui se retrouveront d'ailleurs dans un peu plus d'un mois en Coupe d'Europe, en quart de finale. Alors, ce n'est pas une répétition, mais il y a un petit avant-goût d'Europe pour le coach toulousain William Servat.
Appeler ce match une répétition serait galvaudé quand même cette rencontre top 14 qui à mon avis va quand même être un match avec une très grosse intensité et la qualité de nos effectifs respectifs quand même. Et effectivement, sur une projection un petit peu plus lointaine, un match qui comptera bien évidemment, puisque ce sera un quart de finale de Coupe d'Europe.
William Servat, l'entraîneur toulousain, le match est à 16h50 et je corrige parce que Clément Noël en slalom, en ski, il n'est pas 18e, il est 8e. Ah. Très loin, mais bon, je lui ai fait perdre 10 places, c'est pas sympa.
Merci beaucoup pour cette précision, Simon Rubin. Comme promis, on va voir si le beau temps va continuer à être d'actualité. En tout cas, Valérie Darmon, les températures seront toujours très douces cet après-midi.
Absolument, Fabienne. Température douce, bien au-dessus des normales de saison, jusqu'à 10 degrés au-dessus dans le sud-ouest et une grande amplitude thermique entre ce matin et cet après-midi, jusqu'à 15 à 25 degrés d'écart dans l'est. Et enfin, grand ciel bleu, voilà le programme. Alors, vos thermomètres afficheront cet après-midi 15 degrés à Paris, dans le Lyonnais, à Strasbourg, à Reims et à Marseille, 17 à Périgueux, à Châteauroux et à Agen, et enfin 21 à Biarritz ou encore à Clermont-Ferrand. À noter toujours aussi ces entrées maritimes autour du golfe du Lion et ces quelques nuages donnant un petit peu de pluie qui vont persister sur la pointe bretonne, annonciateur d'une perturbation pour ce soir sur la façade ouest, pour demain, puisqu'elle va traverser la France entre lundi et mardi. Ensuite, ce sera le retour d'un grand beau temps. Et puis, le vent d'OTAN qui persiste dans son domaine à 70 km/h en rafale.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Dans un instant, gros plan sur ces innovations de l'intelligence artificielle qui vont révolutionner notre quotidien. Pour se soigner, se déplacer, grand colloque à Paris mardi. La France est-elle aux avant-postes? On pose la question dans un instant à mon invité Bertrand Braunschweig. Depuis quelques jours, il est coordinateur du plan national de recherche en intelligence artificielle à l'INRIA.
10h49, le journal de la mi-journée se poursuit avec vous Fabienne Lemoyle et votre invité du dimanche.
Comment l'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner notre quotidien, santé, transport? Faut-il s'en inquiéter? Autant de questions passionnantes qui seront sûrement au cœur mardi d'un grand colloque à Bercy. Lundi dernier, c'est Donald Trump qui a ordonné par décret que l'intelligence artificielle soit la priorité des priorités de son administration. Dans le viseur du président américain, il y a bien sûr la Chine qui multiplie les investissements dans ce secteur. Alors, pour mieux comprendre ce qui se joue avec ces innovations auxquelles nous n'échapperons pas, j'ai le grand plaisir d'accueillir en studio Bertrand Braunschweig. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur du plan national de recherche en intelligence artificielle, donc vraiment l'homme de la situation à l'INRIA. L'INRIA, on va rappeler, c'est l'Institut national dédié aux sciences du numérique.
Absolument.
Combien de vos équipes déjà travaillent actuellement sur l'intelligence artificielle?
Chez l'INRIA, il y a environ 200 équipes de recherche et je dirais qu'un quart et sur les sujets de l'intelligence artificielle, à plus ou moins différents degrés d'intervention. Certains font des recherches de base sur l'intelligence artificielle et d'autres l'utilisent pour leurs applications.
Alors Donald Trump, je disais, sonne le tocsin pour que la Chine ne dépasse pas les États-Unis. Le patron de Microsoft était au Vatican cette semaine pour rencontrer le pape François pour parler intelligence artificielle et comment éviter les dérives pour que ces innovations restent au service du bien commun. Pour qu'on prenne la mesure de ce qui nous attend demain, déjà, qu'est-ce que ça va révolutionner concrètement dans notre quotidien? Si on prend le cas de la santé.
Alors dans la santé, effectivement, il y a énormément d'applications. C'est un domaine qui a été mis comme un des domaines d'application principaux dans le plan de Cédric Villani. Hein. Et alors, ça concerne notamment la prévention, le traitement et la prévision des maladies. Ça veut dire qu'on est capable de plus en plus, par exemple, d'interpréter des images, de faire un diagnostic et de faire des propositions de recommandations basées sur ce diagnostic.
L'autre grand secteur, les transports, par exemple, on pense beaucoup à la voiture autonome.
La voiture autonome, c'est un développement très important. On n'en est pas encore au niveau d'autonomie totale, hein, ce qu'on appelle le niveau 5 et le niveau où on n'a plus rien à faire. On est aujourd'hui dans des niveaux qu'on appelle 2 ou 3, c'est-à-dire où on garde quand même le contrôle du véhicule et la voiture est capable de se débrouiller dans certaines circonstances.
C'est quoi les... Je crois que vous parlez de rater quand même encore. Enfin, on a du mal, par exemple, concrètement à freiner avec une voiture autonome.
Alors la voiture autonome, elle doit être capable, quand elle détecte un obstacle, de freiner. Après, c'est une question de précision des résultats, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement quelques accidents. Il y a eu des morts déjà, notamment aux États-Unis, avec des véhicules, disons, partiellement autonomes. Aujourd'hui, les technologies ne sont pas fiables à 100%, et donc forcément, il peut y avoir quelques ratés, effectivement.
Je vais prendre un exemple très concret que j'ai repéré effectivement cette semaine dans l'actualité. Il y a une entreprise qui a développé des caisses automatiques dans les cantines qui reconnaissent en photographiant votre plateau ce que vous allez manger. Du coup, on met l'addition automatiquement sans qu'il y ait besoin d'un caissier, d'une caissière. Et quand il y a une erreur, on peut même rectifier pour perfectionner la machine. Je prends cet exemple parce qu'une des choses qui inquiète dans l'intelligence artificielle, c'est qu'on dit souvent ça va supprimer l'emploi, ça va détruire les emplois. Là, justement, l'entreprise dit d'ailleurs ça va libérer au contraire des ressources humaines pour faire autre chose. Et les Français font partie de ceux qui sont les plus inquiets par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces Français qui sont inquiets, justement ?
Alors, c'est vrai qu'on a remarqué que les Français sont plus inquiets que d'autres nationalités.
Pourquoi ?
En fait, je pense que si on prend la Chine, par exemple, il y a vraiment un enthousiasme sur les technologies de l'intelligence artificielle de la part de la population chinoise. Les Français, peut-être par nature, je ne suis pas sociologue, les Français sont peut-être par nature un peu plus méfiants. Je pense que la question de confiance est primordiale. Moi, ça fait un certain nombre d'années que je dis qu'il est absolument essentiel d'établir la confiance pour les systèmes d'intelligence artificielle. Et ça veut dire notamment passer par la vérification, la preuve, la certification des systèmes et la capacité d'expliquer leur diagnostic, leur raisonnement. Aujourd'hui, on n'en est pas là.
Qu'est-ce qui vous inquiète, que ça remplace l'homme, justement ?
Pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Personne ne sait, en fait, si les systèmes vont remplacer. Ce qu'on sait, c'est que des tâches vont être automatisées. Ça, c'est vrai. Et l'exemple que vous preniez, effectivement, il y a une tâche qui est automatisée. Mais si on prend l'exemple d'un chauffeur routier dont les gens disent qu'ils vont aussi disparaître, le jour où il y aura des camions autonomes au niveau 5, au niveau total d'autonomie, il y aura effectivement la tâche de conduite qui ne sera plus à faire, mais il y aura d'autres tâches qui sont à faire, livrer les équipements, interagir avec le client.
Ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur, justement.
Alors, il ne faut pas en avoir peur. Le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques en 2016, en gros, disait « n'ayez pas peur ». N'ayez pas peur. Et ça fait un petit moment qu'on dit tout ça. Les gens ont peur de l'intelligence artificielle générale. L'intelligence artificielle qui est égale ou supérieure à nos capacités. On n'en est pas là du tout. Aujourd'hui, on a des intelligences artificielles très, très spécialisées.
Qu'est-ce qui doit nous enthousiasmer, justement, dans ce qui nous attend ?
Alors, on a des applications qui sont extraordinaires. Par exemple, sur la traduction automatique. Moi, j'ai sur mon mobile, j'ai un système qui traduit dans 8 langues de manière très, très correcte et qui permet d'interagir facilement avec des gens dont je ne partage pas la langue. En matière de reconnaissance d'images, d'analyse de situation, j'ai aussi sur mon mobile une application qui s'appelle Seeing AI, voir avec l'IA, qui est pour les non-voyants, qui décrit des scènes, qui décrit des objets, qui est capable de dire quelles sont les personnes qui sont en face d'eux. Et donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Ça nous apporte énormément. Quand on a une application qui est aussi capable de mieux traiter, de mieux diagnostiquer l'apparition d'une maladie, évidemment, et puis de prédire ou de définir le traitement qui sera le plus adapté, je pense qu'on a énormément à y gagner. Et si on a les véhicules autonomes, en fait, on gagnera tous énormément de temps. Parce que le temps passé à conduire sur autoroute, franchement, il n'est pas extrêmement passionnant.
Une dernière question, vous qui coordonnez justement cette recherche en intelligence artificielle, est-ce que nous, on n'est vraiment pas à la traîne ?
On est, alors, selon les classements internationaux, on est entre la 5e et la 9e place mondiale en matière de publication en intelligence artificielle.
Je prends un chiffre, le budget de recherche d'Amazon, c'est 14 milliards, je crois, par an, quand le budget de la recherche publique française, c'est 9 milliards.
Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse des efforts. Le budget de la recherche publique, on se bat pour qu'il soit plus important, c'est exact. On a maintenant un plan national qui est tout à fait, qui fait l'objet de considération, qui est important, qui est un premier effort qui est du jamais vu en France jusqu'à présent. Et on est aussi, à l'intérieur de l'Europe, dans une grande démarche européenne où la Commission européenne a décidé d'investir aussi massivement sur le sujet. Donc on est la France, mais aussi, on est aussi dans un réseau important.
Merci beaucoup Bertrand Brunschweig d'avoir été notre invité. Je rappelle, coordinateur de l'intelligence artificielle au niveau de l'INRIA, Institut National dédié aux sciences du numérique. À 13h, vous avez rendez-vous avec Sophie Larmoyer pour ouvrir les carnets du monde. Alors, quel est le programme aujourd'hui, Sophie ?
Bonjour Fabienne, bonjour à tous. On reparle du Brexit dans les carnets, c'est bientôt, dans 6 semaines.
et on va écouter les Européens qui vivent là-bas au Royaume-Uni, les Anglais de France aussi, tous assez angoissés de leur sort, vous l'entendrez. On ira aussi écouter en Inde ceux qui œuvrent depuis des mois déjà, voire des années, pour l'inclusion des personnes homosexuelles dans les entreprises. Ils se sentent moins seuls depuis qu'en septembre dernier, la Cour suprême a dépénalisé l'homosexualité en annulant un article du Code pénal qui datait de la période coloniale.
Bien noté, et à tout de suite Sophie Larmoyer.
Et dans un instant Fabienne, on vous retrouve pour le rappel des titres.